Vous écoutez RFI, il est 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal Afrique avec Vincent Dublange. On commence, Vincent, avec cet entretien d'Ousmane Sonko à la télé burkinabé.
Oui, repris par son homologue sénégalaise, la RTS. Léa Lisa Vesterov était devant sa télé hier. Au Mali, près de deux semaines et toujours pas de nouvelles des trois militants politiques enlevés. On fait le point avec David Bach et on sera au Bénin aussi. Audience hier devant la Criette. Audience finalement reportée. La Criette qui se dit incompétente. Jean-Luc Aplogan nous explique. On est à Cannes également pour le premier film nigérian de l'histoire de la sélection officielle My Father's Shadow d'Akinola Davis Jr. Elisabeth Chenu avec nous dans 10 minutes. 45 minutes d'interview avec le Premier ministre. Ousmane Sonko s'est longuement confié à la radio-télévision burkinabé, la RTB, et la télévision nationale sénégalaise l'a repris, cet entretien, diffusion hier soir, l'occasion pour Ousmane Sonko de revenir sur sa politique de souveraineté au Sénégal avec la fermeture progressive en cours des bases militaires françaises. Il est aussi revenu sur l'explosion en vol, en quelque sorte, de la CDAO dans la foulée des putschs dans la sous-région. À Dakar, Léa Lisa Vesterov.
Interrogé sur le retrait des pays de l'AES, Burkina Faso, Mali et Niger, de l'ensemble sous-régional de la CDAO, Ousmane Sonko a répété les regrets de son pays face à ce départ, mais renouvelé aussi ses critiques vis-à-vis de la CDAO et sa gestion des crises politiques.
S'il y a coup d'État, qu'est-ce qui a amené les coups d'État? Et pourquoi, quand les gens font des tripotages constitutionnels, la CDAO ne parle pas? Quand des gens briment des opposants, la CDAO ne parle pas? Jusqu'à ce que certaines situations arrivent, on sort des communiqués, on fait des embargos et on menace d'intervenir militairement. C'est ces erreurs qui nous ont conduit à ça. Et j'espère que la CDAO en tirera toutes les leçons.
Ousmane Sonko qui a aussi réaffirmé le désir et la nécessité pour le Sénégal et le Burkina Faso de travailler ensemble.
Même si ça a éclaté, nous continuerons à travailler ensemble. Nous avons 20 accords de coopération signés et ratifiés. Il y a 23 autres qui sont en cours de discussion. Vous pensez que c'est parce que le Burkina n'est plus dans la CDAO que ça va arrêter? Non, nous allons continuer et même peut-être accroître la coopération.
Ont été cités en priorité la coopération sécuritaire et économique. Le Premier ministre sénégalais n'a en revanche pas eu un mot pour Guy Hervé Kam, détenu depuis un an à la prison militaire de Ouagadougou et qui a été l'un des avocats d'Ousmane Sonko alors qu'il était encore opposant et derrière les barreaux au Sénégal. Léa Lisa Vesterov, Dakar, RFI.
Le ministre sénégalais des Forces armées, le général Biram Diop, reçu hier par le président malien de la transition, le général Assimi Goïta. C'est un communiqué de la présidence malienne qui a révélé cette visite qui n'avait pas été annoncée. Elle survient trois jours après celle dont on vient de parler du Premier ministre sénégalais à Ouagadougou pour évoquer la collaboration du Burkina et du Sénégal, notamment dans la lutte contre le djihadisme. À l'issue de la rencontre, le ministre sénégalais Biram Diop a déclaré porter un message de main tendue au Mali. Je cite, face aux défis extrêmement aigus auxquels fait face notre continent qui demande une grande solidarité. Pas de précision supplémentaire. Le Mali où les familles restent sans nouvelles de trois militants pro-démocratie enlevés il y a une dizaine de jours maintenant par la sécurité d'État. Alassane Abba de la CODEM et de la coalition Jigiyakoura. El Bachir Thiam du parti Yelema. Tous deux ont été enlevés le 8 mai. Et puis Abdoul Karim Traoré, également membre de la CODEM, disparu lui le 11 mai. D'après les informations de RFI, ils sont détenus tous les trois par les services de renseignement maliens, soupçonnés de tentatives de déstabilisation. Leur détention hors de tout cadre judiciaire porte un coup dur au mouvement pro-démocratie né début mai au Mali, tout comme d'ailleurs la dissolution des partis politiques annoncée la semaine dernière. Famille et camarades des trois militants restent inquiet, bien sûr, mais déterminé, David Baché.
Ils sont détenus séparément et leur libération n'est pas pour maintenant. De sources sécuritaires maliennes, les services de renseignement soupçonnent les trois hommes d'être impliqués dans des projets de déstabilisation et recherchent des informations sur d'éventuels contacts extérieurs. Des accusations balayées par leurs camarades de parti qui estiment qu'il s'agit essentiellement de réprimer et d'intimider tous les militants pro-démocratie. Une cellule de crise s'est constituée pour soutenir les familles d'Alassane Abba et d'Abdoul Karim Traoré et pour maintenir autant que faire se peut la pression sur leur cas. Une prière collective a été organisée au domicile d'Alassane Abba pour sa libération et celle des autres détenus. Dans l'entourage d'El Bachir Thiam, on indique garder le moral malgré la peur. L'ancien Premier ministre Moussa Mara a quant à lui initié une série de visites de solidarité dans les familles des trois détenus mais aussi dans celles de nombreux autres prisonniers d'opinion en détention depuis parfois plusieurs années. Ras Bach, Rose Vichère, Alou Badra Sakho. L'unité et la réconciliation chères à nos autorités demandent que tous ceux qui sont privés de leur liberté pour leur opinion soient relâchés, a commenté l'ancien Premier ministre sur les réseaux sociaux.
Il est 9h35 à Paris. Va-t-on faire la fin de l'affaire Agathe Habyarimana en France, 31 ans après le génocide des Tutsis du Rwanda, l'ancienne première dame rwandaise pourrait bénéficier d'un non-lieu, c'est ce qu'espère son avocat, en tout cas, alors que la juge enquêtrice a clos son enquête vendredi. Il reste un rendez-vous crucial demain devant la chambre d'appel de l'instruction. La FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, qui est partie civile dans cette affaire, regrette la clôture de l'enquête et attend demain donc l'audience devant la chambre d'appel de l'instruction. On va en parler dans le prochain journal, dans une demi-heure, avec Jeanne Bartoli. Au Bénin, on attendait hier le verdict dans le procès de l'ancien directeur général de la police, Philippe Ondaignon, accusé de cyberharcèlement et d'incitation à la rébellion. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme s'est finalement déclarée incompétente. Les juges ont décidé de renvoyer l'affaire en instruction. Les avocats de l'officier de police dénoncent, je cite, « une hérésie judiciaire ». Jean-Luc Aplogan, ils promettent de faire appel.
Lorsque l'officier se présente à la barre pour écouter le verdict, il est surpris par la brièveté de la décision. Incompétence de la juridiction, renvoi en instruction et confirmation du mandat de dépôt. Cela a duré moins d'une minute. Les juges considèrent que les faits sont plutôt de nature criminelle. L'ex-patron de la police, Philippe Ondaignon, crâne nu, cartable sous le bras, retourne à sa place sans un mot. Un de ses conseils le rejoint pour échanger avec lui et c'est Maître Keke qui commente la décision. Au nom des conseils.
C'est une violation flagrante des droits de la défense. C'est des citoyens béninois qui sont en prison. On fait toute la procédure jusqu'à la fin et c'est à la fin qu'ils se déclarent incompétents. C'est de l'infamie judiciaire.
La défense va faire appel. En attendant, et c'est un peu inattendu, selon nos informations, le parquet spécial, insatisfait de la décision, a fait appel ce lundi même. Il demande à la Chambre des appels de réexaminer tout le dossier. Si la Chambre des appels confirme le premier jugement, le parquet devra saisir un juge d'instruction. Le cas contraire, elle devra prononcer une condamnation ou une relaxe. Pour rappel, le procureur avait requis fin avril 2 ans de prison ferme contre Philippe Ondaignon. Le calendrier de la suite de la procédure est encore inconnu. L'officier supérieur de police reste en détention. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
La justice guinéenne condamne le secrétaire permanent du parti de l'ancien président Alpha Condé, le RPG. Sékou Condé reconnu coupable de violation d'une mesure administrative, en l'occurrence l'interdiction de mener des activités politiques faites à sa formation. Il écope de 50 000 francs guinéens d'amende, l'équivalent de 5 euros. Au Tchad, l'opposant Succès Masra, toujours gardé à vue. Il devait être auditionné hier par les enquêteurs, mais le rendez-vous a été écourté. Des tensions ont éclaté entre un policier et les avocats de Succès Masra. Celui-ci refuse alors de répondre aux policiers. Une nouvelle tentative, normalement, aujourd'hui. Et vous nous dites ce que vous pensez de cette affaire, que vous nous écoutiez au Tchad ou ailleurs. On ouvre le débat dans Appel sur l'actualité à 10h10, heure de Paris, 8h10, temps universel, dans une demi-heure.
Abidjan, 97.6 FM.
En Côte d'Ivoire, c'est une convention entre la compagnie aérienne Corsair d'un côté et puis 5 institutions ivoiriennes de l'autre, le Sénat, l'Assemblée nationale notamment. Une convention qui porte sur des tarifs préférentiels qui suscite la polémique. Tarifs préférentiels pour prendre l'avion donc, mais aussi pour aller se soigner dans un hôpital parisien. Les explications à Abidjan de Binta Diagne.
Jeudi dernier, au moment d'une cérémonie avec la compagnie Corsair, la présidente du Sénat, Candia Camara, précise que cette convention porte sur la réduction des coûts des billets d'avion sur les lignes de Corsair, aussi bien pour les voyages professionnels que privés. Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier des prestations de l'hôpital américain à des conditions préférentielles. Fin de citation. En réalité, en 2019, la compagnie française Corsair a lancé une formule adressée à toute sa clientèle ivoirienne et incluant un billet d'avion et un bilan de santé avec cet établissement de santé parisien. Mais les propos de la présidente du Sénat la semaine dernière ont été diversement interprétés. Ils suscitent de nombreuses critiques, tant de la part des internautes que de la classe politique. L'État ivoirien favorise les élites et leurs familles pour des soins extrêmement coûteux à l'étranger, dénonce le groupe parlementaire du PDCI. Cela est symptomatique de l'échec du programme d'accès à la santé pour tous, souligne ce parti d'opposition. À quoi servent nos hôpitaux? C'est de la malgouvernance, du mépris, du dédain, affirme Sébastien Danoudjedje, le président exécutif du PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les institutions concernées n'ont pas commenté ces déclarations. Bintadian Abidjan, RFI.
Direction Cannes dans le sud de la France pour le Festival international du film. Le réalisateur égyptien Morad Mostafa présente ce matin son premier long métrage Aïcha ne peut pas s'envoler, Aïcha can't fly, dans la sélection baptisée Un certain regard. Une séance est prévue à 11h. Si jamais vous êtes à Cannes. Si vous n'y êtes pas, RFI continue bien sûr de vous faire vivre ce rendez-vous et d'être au plus près des réalisateurs, réalisatrices, des équipes, des films en sélection officielle. Et c'est une première, un film nigérian, My Father's Shadow, l'ombre de mon père, signé d'Akinola Davis Jr., un long métrage tourné à Lagos. L'histoire se déroule en 93, moment de bascule au Nigeria, Isabelle Chenu.
Akinola Davis Jr. a perdu son père à l'âge de 2 ans et c'est sur les traces de cet absent qu'il a écrit avec son frère ce récit émouvant. Un voyage d'une journée dans la grande mégalopole de Lagos entre un père et ses deux petits garçons qui découvrent la ville pour la première fois. Le spectateur voit défiler par leurs yeux le chaos, la magie, la beauté ou la dureté de la cité. Un moment de fiction partagé à trois.
La chose qui a le plus de valeur dans la vie, c'est le temps. Et passer du temps à voir ses enfants grandir est une bénédiction. Et qu'est-ce que ça signifie pour un père africain qui se bat pour subvenir aux besoins de sa famille et qui rate tous ces moments importants? Nous voulions honorer ce sentiment de paternité et le représenter à l'écran.
Cette traversée de Lagos a lieu le 12 juin 1993. En toile de fond, la première élection présidentielle après 10 années de dictature militaire. L'annulation des résultats et la répression qui s'en suivit fut pour toute une génération le rêve volé d'un nouveau destin pour le pays. Isabelle Chenu, Apolline Verlon, Cannes, RFI.
Et c'est ainsi que se referme cette édition. Il est 9h et quasiment 42 minutes à Paris. Vous retrouvez Marion Casanov pour la fin des RFI Matin.
Et c'était le journal de Vincent Dublange.